pour nous, ce qui est important, c'est l'insertion professionnelle et donc que nos jeunes soient bien en phase avec ce qui se passe sur le territoire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut-être va se passer demain.
Pour faire bouger les mentalités de certaines filières qui veulent vraiment être agriculteurs, je pense qu'ils font plus bouger les choses en essayant d'aller plus vers une agriculture raisonnée ou des choses comme ça pour arrêter en fait l'agriculture conventionnelle.
Et donc, il y aura toujours la nécessité d'aller chercher ces nouvelles compétences, des nouvelles pratiques pour répondre aux problématiques qui vont évoluer au fil du temps et au fil des années.
Y a-t-il un point commun entre ces jeunes ? Clément sera bientôt salarié dans l'exploitation de son père, 180 vaches tarentaises élevées pour produire du Beaufort et de la tomme. Leslie, elle, doit passer son bac pro, service aux personnes et au territoire, et espère ouvrir un centre éducatif pour les jeunes en difficulté en Guadeloupe. Chloé sera vétérinaire, Ahmed va créer son entreprise de transformation du sorgho après son diplôme d'ingénieur, et Camille a déjà ouvert son cabinet d'aménagement paysager. Leur point commun ? Tous sont passés par l'enseignement agricole. Un pan entier de l'éducation, souvent méconnu, qui forme chaque année 210 000 élèves, apprentis ou étudiants. Originalité du système, un tiers est dans le public, le reste dans le privé. Le ministère de l'Agriculture, qui subventionne les deux, dépense 1,7 milliard d'euros par an pour cette filière. À l'heure où s'ouvre le salon de l'agriculture, nous avons voulu nous concentrer sur le parcours de ces jeunes qui choisissent la production agricole, un secteur souvent décrit comme en souffrance. Les exploitations ont fondu en France, passé de 2 millions dans les années 60 à 500 000 aujourd'hui. Un monde qui doit aussi transformer ses modes de production pour respecter enfin l'environnement. Utiliser moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'antibiotiques, supprimer le glyphosate, autrement dit, penser durable. Ce qui s'apprend au lycée, à l'université, dont les parcours ont été modifiés tout récemment encore. C'est donc aussi une profession qui attire. Un tiers des jeunes qui s'installent ne viennent pas du milieu. 27% des chefs d'exploitation sont désormais des femmes. Et le niveau de diplômes du monde agricole progresse de façon spectaculaire. À l'école des mutations agricoles, c'est un magazine signé Anne-Laure Choin. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, ici en studio avec nous, Philippe Vincent, bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Vous êtes directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Et nous sommes en duplex de France Bleu Pays d'Auvergne avec Jean-Marie Le Boiteux. Bonsoir monsieur.
Bonjour madame.
Alors vous êtes enseignant agricole, représentant du SNETAP FSU qui est le syndicat ou l'un des syndicats de l'enseignement agricole public. Et puis nous sommes bien sûr avec Anne-Laure Choin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Tara.
Et vous allez nous parler ce soir de l'enseignement agricole au moment où s'ouvre le salon de l'agriculture et où les urbains que nous sommes vont aller s'émerveiller devant les éleveurs, les maraîchers, toutes sortes d'exploitants. Vous avez voulu Anne-Laure savoir comment sont formés les professionnels de ce monde agricole qui doivent relever toujours plus de défis.
Oui, et quel défi ? Produire plus sain, vous l'avez dit, plus durable, plus écologique, avec toujours plus de technologies, notamment numériques. Tous ces défis, il faut s'y préparer. Et pas seulement les futurs agriculteurs, mais tous les métiers qui font partie du secteur agroalimentaire. Ils sont très nombreux. C'est la mission de l'enseignement agricole, former toujours mieux ces jeunes qui continuent d'arriver par milliers dans les lycées et centres de formation publics et privés de l'enseignement agricole. Les former à évoluer dans un monde en pleine révolution. Je suis donc allée voir ce qui se passe dans ces établissements pour interroger les enseignants et les élèves. Certains d'entre eux seront d'ailleurs présents au salon pour montrer au public les résultats de ce qu'ils ont appris et enseigné.
Et votre reportage débute au lycée agricole de la Germinière à Rouillon, dans la Sarthe, près du Mans.
Dans ce lycée, beaucoup de choses ont changé ces 5 dernières années autour du vieux bâtiment principal et de l'internat et du CFA construit dans les années 60. De nouveaux équipements ont été construits à mesure que de nouveaux projets se mettaient en place. On débute ce reportage avec Isabelle Vincent. Elle est enseignante en gestion dans des classes de BTS AXE, des élèves qui souhaitent s'installer ou reprendre des exploitations.
Quand j'ai commencé à enseigner, donc effectivement, il y a déjà un certain nombre d'années, deux agriculteurs produisant exactement les mêmes litrages en lait, les mêmes nombres d'hectares en culture de vente, dans un même village, avaient à peu près le même revenu agricole. C'est vraiment plus le cas du tout aujourd'hui, et on assiste à vraiment une transformation profonde de l'agriculture du fait de la technicité et du fait de la maîtrise et des finalités des exploitants à la tête de ces exploitations. Je pense pense que les agriculteurs sont en première ligne pour constater les évolutions climatiques, les évolutions techniques qui s'opèrent en lien avec l'agroécologie. Ils sont les premiers à constater les chutes de rendement liées à l'érosion des sols, à la préservation de l'eau également. Donc nous, notre rôle d'enseignant, c'est d'essayer de leur dire que pour gérer leur exploitation demain, il faudra que ces jeunes soient conscients de cette incertitude permanente, des marchés, de la technique en évolution permanente. Ça sera produire mieux en utilisant moins les ressources de la planète, hein, tout simplement, en les consommant mieux.
Madame, vous pouvez oublier votre bêche ?
Ah oui, la bêche ! Regarde, je vous ai donné la consigne !
Regardez !
Le lycée agricole, c'est un terrain de jeu grandeur nature pour les élèves. 120 hectares d'exploitation, une véritable entreprise qu'il faut faire tourner avec des animaux, vaches et poules, des cultures, des prairies et des salariés. Une partie des parcelles du lycée est exploitée en agriculture dite de conservation des sols. Fini les labours, ce sont des plantes qui font travailler les sols et qui leur permettent de se régénérer naturellement. Nous partons sur ces parcelles avec Lucas, Rémi et Benjamin, 16 ans, qui préfèrent de loin le terrain à la salle de classe. Ils ont enfilé bottes et combinaisons pour aller travailler dans ce champ avec leur enseignante en agronomie, Annick Querello.
Aussi utilisée par les élèves pour réaliser des travaux pratiques.
D'accord.
Et en l'occurrence, c'est quelle culture ? Alors là, donc, vous allez avoir une parcelle donc, qui est installée en triticale. Et une autre parcelle qui est actuellement donc en couverture végétale et qui sera semée en avril en maïs. Donc en classe de seconde agricole, en fait, c'est d'abord de leur enseigner donc des mots-clés, du vocabulaire qui est utilisé par la profession agricole. Mmh. Et après, en première et terminale bac pro, on reprend tout ce vocabulaire et ça leur permet de faire des liens donc avec soit du matériel, soit de la production animale. On va être plus dans de l'analyse.
Et est-ce que c'est du vocabulaire quand même que certains d'entre eux maîtrisent du fait de l'environnement familial ?
Alors, ils l'ont entendu, mais ils ne le maîtrisaient pas. Donc là, donc, on est sur un couvert qui a été implanté donc, début septembre. Alors ce couvert, donc là, contient différentes familles et différentes espèces. Alors donc les gars, déjà, est-ce que vous sauriez reconnaître quelques espèces implantées dans ce couvert ?
Le trèfle.
Il n'y a pas de trèfle à cet endroit-ci, il est plus bas.
Il est plus bas.
Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce couvert ?
La févrole ?
Non, ce n'est pas de la févrole.
Non, c'est une adventice.
C'est du pois. Pois.
Ah, c'est du pois.
C'est du pois, d'accord ? La févrole, en fait, vous voyez toutes les tiges noires, là ?
Oui, c'est ça, mais elle a gelé.
La févrole, elle a gelé.
Et là, c'est genre ça, là, le petit kyste blanc.
Voilà, donc essayez de bien préciser qu'est-ce que ce kyste-là, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est une nodosité qui capte l'azote de l'air.
Voilà, c'est une bactérie, d'accord, qui se fixe sur les racines exclusivement des fabacées, des légumineuses. Et cette bactérie-là, elle va récupérer l'azote de l'air. Et après, l'azote, il est transmis où ?
Dans la plante.
Dans les feuilles, d'accord ? Et donc ça, c'est très intéressant pour l'agriculteur. Pourquoi ?
Parce que du coup, il n'a pas besoin de... par exemple, après, là, du coup, ça va être du maïs. Du coup, il va falloir... On va mettre moins d'azote. On va avoir moins d'apport d'engrais.
Ouais, donc s'il détruit le couvert et qu'il le restitue au sol...
Bah, il redonne l'azote, en fait.
Il redonne l'azote donc au sol et ça lui fait moins d'apport d'engrais, moins d'achat. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, dans les systèmes, ce que l'on recherche, c'est à être le plus autonome possible, d'accord ? À ne utiliser le moins possible d'intrants de l'extérieur.
Ouais.
D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un axe prioritaire sur l'exploitation du lycée.
Vous connaissiez ça avant ?
Ouais, mais je savais pas ce que ça faisait, par contre.
D'accord. Tu savais que ça existait, mais pas
l'intérêt... Je savais pas quel intérêt ça avait pour le sol, ni pour les animaux, tout ça.
On pense que c'est plus facile que ça. Quand on sème une plante, ça pousse, on la récolte. On met des effluents pour...
Exactement ça.
On met des effluents d'élevage pour avoir de l'engrais. Mais non, au final, c'est beaucoup plus complexe. faut avoir quelques bases quand même.
Leur problématique, c'est que eux, ils ont quelques petites expériences, ils ont conduit, etc. Donc, on leur a donné des directives. Mais je leur ai dit, aujourd'hui, vous allez intégrer un bac professionnel et on n'est plus sur de l'exécution de tâches, on est sur de la réflexion. Et donc, c'est ça. Et pour ça, il faut un petit peu de vocabulaire pour pouvoir faire de l'analyse par la suite.
D'accord. Mais c'est intéressant.
Ah oui.
Belle unanimité.
Les jeunes qui viennent à la Germinière sont des passionnés, pas des décrocheurs. C'est ce qu'aime à dire le directeur de l'établissement, Dominique Aubine. Il accueille de plus en plus de jeunes qui ne viennent pas du monde agricole, mais qui restent souvent attachés au monde rural. Au lycée, une partie des enseignements qu'ils reçoivent sont élaborés par l'équipe enseignante elle-même, en lien quasi permanent avec la profession et les acteurs du territoire. Dominique Aubine.
Ça fonctionne sur des objectifs qui sont donnés à la formation en termes d'acquisition de compétences. Il y a des programmes qui sont établis, mais au sein de ces programmes, on a une partie de la formation qui peut être dédiée à des spécificités du territoire. Par exemple, nous, on a réorienté énormément nos formations pour intégrer dans notre parcours de formation une des spécificités du territoire, par exemple l'aviculture. Mm-hmm. En Sarthe, une exploitation sur trois a un élevage avicole, donc d'une manière ou d'une autre. Depuis maintenant 2 ans, puisque c'est un schéma qu'on a mis en place depuis plusieurs années, donc on a abouti à ce que l'aviculture soit étudiée dans chacune des formations. Et comme nous avons une exploitation agricole, nous y avons développé un élevage avicole. Parce que, évidemment, ce serait une erreur que de vouloir mettre en œuvre des choses qui ne sont pas en relation et connectées avec le territoire. Ça voudrait dire que derrière, nous formerions des gens qui ne sont pas adaptés aux enjeux et aux besoins de formation. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est l'insertion professionnelle et donc que nos jeunes soient bien en phase avec ce qui se passe sur le territoire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut-être va se passer demain. Et donc, c'est là qu'il y a un certain nombre de réflexions qui ont été conduites au sein de l'établissement plusieurs axes. Je peux en illustrer au moins deux. Mm-hmm. Il y a un axe sur l'agronomie et un autre axe sur l'agriculture métropolitaine. L'établissement donc a investi dans un atelier très important, vous allez voir tout à l'heure, qui est un atelier agroéquipement, donc qui est un espace très intéressant du point de vue de son utilisation pédagogique et qui intègre beaucoup de nouvelles technologies quant à l'utilisation des machines agricoles. Donc voilà, on est vraiment dans la prospective. Et nous, il nous semblait indispensable qu'en même temps que l'on avait ces outils hyper modernes, que notre cœur de métier étant l'agriculture, et au sein de l'agriculture, c'est l'agronomie qui est essentielle. Donc on a développé un projet qui essaye de travailler et de répondre à la question comment l'agroéquipement peut répondre à la valorisation agronomique et à l'utilisation agronomique des sols.
Alors ça, c'est quoi c'est
Alors ça, c'est la sonnerie de fin de cours et de reprise. Alors c'est un peu particulier. C'est original.
Oui, c'est original.
La filière agroéquipement, justement, elle attire un public toujours très masculin. Ses élèves travaillent dans un grand hall flambant neuf où l'on trouve la plupart des nouveaux tracteurs et outils utilisés par la profession. Un atelier métal aussi pour s'entraîner aux menus réparations.
Donc, je suis Cyril Lagorne, enseignant stagiaire en agroéquipement au lycée Drouillon. Et on apprend surtout aux jeunes à être capables d'utiliser les machines agricoles en autonomie, je dirais. De pouvoir faire les réglages corrects et les entretenir d'un premier niveau.
Donc c'est de la mécanique en fait ?
Il y a une partie mécanique, bien sûr une grosse partie conduite et utilisation des matériels, en sécurité bien sûr et en respectant la législation. Il y a toujours les bases de la mécanique, je dirais, les bases d'utilisation des réglages des machines. Après, à nous d'adapter, à nous professeurs de nous former pour pouvoir après retransmettre aux jeunes. Oui. C'est assez hétérogène, il y en a, ils ont très très peu touché à de la mécanique ainsi qu'à la conduite. D'autres font déjà un peu chez eux, donc c'est plus simple pour eux, je dirais. Mais après, le but c'est de les amener tous au même niveau à la fin et de les faire s'entraider, je dirais. Là, on a un super outil de travail, je dirais, pour former les jeunes, contrairement à ce qu'on avait avant. C'est un peu plus rustique, mais donc là, on a les très bonnes conditions, que ce soit pour leur faire essayer le matériel ou leur apprendre la mécanique. Ouais.
Je peux avoir vos prénoms ?
Clovis et Benjamin.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord ce que c'est que ça et ce que vous essayez de faire ?
Là, c'est une transmission Et donc là, on doit démonter les disques de la boîte de vitesse.
On a eu un peu de mal au début, mais une fois que la première partie est enlevée, ça va tout seul. C'est pas mal.
Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, du coup ?
Bah, la mécanique, la conduite, et puis bah, on voit les plantes. C'est du théorique, mais il y a beaucoup de pratique aussi.
Alix Redouin.
Et tu as quel âge ?
J'ai 22 ans.
Donc, est-ce que tu peux m'expliquer dans quel parcours de formation tu es, en fait ?
Bah, en fait, moi, je suis au CFPPA, donc c'est des formations pour adultes. Je suis venu ici surtout pour avoir une ouverture d'esprit en vue de ma future installation, en fait. Que je compte d'ici 2 ans m'installer, donc avoir une formation mécanique, c'est toujours un plus. On a appris, on a vu tout le fonctionnement du moteur. On va bientôt voir les systèmes d'antipollution sur les tracteurs. On est en atelier métaux, donc on a appris à souder. Aujourd'hui, on apprend à tarauder, à faire les filetages, à refaire des filetages. Tout ce qui pourra nous servir pour plus tard.
Tu es un futur agriculteur, en fait.
C'est parti pour, oui. C'est parti pour.
Tu sais dans quel domaine particulier ?
Surtout les grandes cultures. Enfin, je suis fils d'agriculteur et on est surtout dans une région très céréalière, donc je vais plus m'orienter vers ce domaine-là. Cette formation-là, en fait, elle n'est pas présente partout. Moi, je suis originaire de la région centre et dans la région centre, il n'y a pas cette formation-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était une formation assez courte, parce que bon, les cours, ça a commencé à m'agacer un peu, ouais, voilà. Ils proposaient une formation en 9 mois, donc moi, ça m'intéressait fortement.
Pour gérer ce nouvel outil de travail, Joël Busson, à la fois enseignant en sciences et techniques agroéquipement, responsable de ce nouvel outil et chef de projet, il coordonne à la fois les élèves et les enseignements de la filière agroéquipement.
Là, c'est plutôt donc des adultes là, qui sont en formation, il y a des apprentis aussi.
D'accord.
Donc l'objectif là, c'est d'être formé donc, sur l'utilisation des matériels type engins télescopiques, mini-pelles, qui seront ensuite donc, utilisés dans le cadre de leur métier.
Adrien Firmin, 16 ans. Donc là, on a pris le tracteur Valtra, on a pris une remorque là, forestière, et on devait avancer entre les plots. Sans toucher le plot, bien sûr, sinon ça fait une pénalité. Après, on a pris le tracteur Fendt là-bas. Y a le chargeur. On devait pousser une planche mise sur les plots là-bas. Et sans toucher les plots. C'est assez complexe. Et après, on a pris avec l'aide de la griffe du godet, on a pris une planche de bois, en bois, et fallait la poser sur 3 plots orange là-bas. Ça aussi, c'est assez difficile.
D'accord.
Et on avait un John Deere aussi, où il y a un pneu sur une barre métallique. Il fallait le poser sur un objet posé sur le sol. Début d'année, on a conduit le tracteur classe qui est en location ici. Donc on l'a conduit un petit peu, sans attelage en fait. Et donc là, on fait, mais avec des remorques, on recule avec le dolly là-bas. Donc ça nous a appris en fait avant de faire ça, parce que c'est plus complexe.
Et tu veux faire quoi plus tard, tu sais déjà ?
Donc moi plus dans le commercial en fait, faut quand même savoir conduire parce que même les pièces c'est important.
Donc dans le commercial ça veut dire vendre des tracteurs ?
Voilà, oui, ou les pièces, voilà.
D'accord, avec t'as une idée d'une marque d'équipement en tête ou pas forcément ?
Plutôt John Deere.
Parce que ?
Plutôt, moi, mon papy, il avait un John Deere, tout ça, donc j'ai conduit du John Deere, donc je suis habitué à ça. Voilà.
Bon, très bien.
À la Germinière, à côté de la cantine, il y a une petite salle vitrée où ils sont plusieurs à se réunir, souvent pendant l'heure du repas. Ce sont les élèves de l'association du lycée. Ils montent des projets et ils discutent de l'agriculture d'hier et de celle de demain.
Axel, 16 ans, premier STAV, sciences techniques agronomie du vivant.
Moi, je m'appelle Flavie, je suis aussi en première STAV. Moi, je trouve que le lycée, il a quand même une vision, pas futuriste, mais enfin, il y a pas mal de projets de développement durable, au self-entrée. Enfin, je pense que si, pour faire bouger les mentalités de certaines filières qui veulent vraiment être agriculteurs, je pense qu'ils font plus bouger les choses en essayant d'aller plus vers une agriculture raisonnée ou des choses comme ça pour arrêter en fait l'agriculture conventionnelle.
Après, personnellement, mon papa, il essaye de faire des pratiques agricoles pour préserver au maximum la planète. Je sais que ça fait 20 ans qu'il laboure plus, du coup qu'il prend soin de son sol. Alors après, c'est vrai que ça va être difficile de mettre ça dans la tête de tous les agriculteurs, parce que c'est un autre mode, une autre façon de travailler. Donc ça va être dur à l'avenir d'ancrer cette façon dans l'agriculture. Donc il utilise plusieurs façons, il fait de l'agriculture de conservation, donc on conserve au maximum le sol. J'ai en quelque sorte une avance sur les futures techniques pour travailler le sol.
Mon papa, du coup, il fait des vaches allaitantes, donc des charolaises. Et on peut dire un peu qu'il est sur une agriculture plus raisonnée parce qu'en fait, il est à peu près autosuffisant. Il fait son aliment en récoltant ses céréales. Il a juste quelques hectares justement pour faire l'aliment. Il fait de la vente à la ferme pour pouvoir fixer ses prix et ses marges lui-même au lieu de dépendre des industriels et des abattoirs. Donc, les pratiques passées avec l'essor de tout ce qui était machine agricole, forcément, ils ont voulu faire marcher l'industrie, donc ils ont peut-être moins fait attention à l'environnement, on va dire. Et puis maintenant, on s'en rend compte, donc on est plus dans l'optique de résoudre ce problème, je pense.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats entre élèves suivant, par exemple, moi, mon père, je sais qu'il fait de l'agriculture en conservation. L'élève qui va être à côté de moi, il va pas être forcément d'accord parce que son père, il travaille de cette façon-là. Donc forcément, ça a posé débat, mais nous, après, en agronomie, on essaye de voir les deux, mais on nous dit pas, c'est forcément ça qu'il faut faire. Ça, cette pratique-là, c'est pas bien, faut faire ça.
Disons qu'on nous donne plusieurs possibilités. Après, chacun a son opinion, et puis la plupart du temps, ça dépend aussi des parents, parce que c'est rare que des parents conventionnels, ils aient des fils ou des filles qui reprennent et qui fassent complètement l'inverse. Enfin, souvent, c'est l'opinion. Disons qu'on suit une opinion avec le lycée, mais on garde souvent plus l'opinion de nos parents, quoi.
Pour encadrer ces discussions et surtout encadrer les projets des élèves, il y a Marion Tréguer, la professeure d'enseignement socioculturel, un cours qui n'existe que dans l'enseignement agricole.
Oui, tout à fait, c'est vraiment la spécificité, c'est là où on va se démarquer de l'éducation nationale. Le professeur animateur d'éducation socioculturelle, en fait, va porter deux, trois grandes missions au sein du lycée, donc avec deux tiers de son temps consacré à des cours autour de l'enseignement artistique, de la communication, de pratiques culturelles et artistiques et d'ouverture culturelle. Ça, c'est pour l'enseignement. Et ensuite, un tiers de son temps qui est dédié à l'animation au sein du lycée. Voilà, comment proposer aussi des temps forts pour les élèves en termes d'ouverture culturelle sur des soirées ou des mercredis après-midi.
Donc l'objectif, il est au-delà d'un enseignement qui est très technique, très professionnalisant, de donner quoi ? Une ouverture d'esprit, en fait ?
Oui, complètement. On sait que là, en l'occurrence, en plus, le Mans est très, très lié à cette thématique de l'agriculture. Beaucoup d'élèves souhaitent s'installer. L'important pour nous, c'est qu'ils aient une maximum d'ouverture et de billes pour comprendre la société et le monde qui les entoure, pour ne pas se retrouver isolés et pour pouvoir être en constante innovation aussi sur leurs pratiques d'agriculteurs de demain. Où on va les amener à découvrir la sensibilité autour de l'art, par exemple avec des terminales STAV. On va leur demander de décrypter des œuvres d'art, des œuvres cinématographiques, pour en comprendre le fonctionnement et aussi comprendre sa fonction dans la société. Ça peut être aussi des projets de pratiques artistiques que l'on mène avec des terminales professionnelles, donc lors de leur dernière année avant le bac pro, où ils vont par eux-mêmes pratiquer un art, que ce soit de la danse, du théâtre, de la photographie, dans le cadre de leur cours. Voilà, pour s'initier, pour approcher le fait artistique et aussi se poser des questions pour leur avenir en se disant en quoi ça peut m'aider pour mon avenir aussi d'être ouvert culturellement sur d'autres choses que sur le monde purement agricole, et comment je peux faire du lien aussi avec ce milieu-là, notamment, pourquoi pas, des fermes ouvertes avec des lieux culturels, d'accueil d'artistes. Voilà, on voit plein de choses qui se montent en ce moment, et il y a vraiment un intérêt à décloisonner tout ça et à faire vivre des lieux qui soient à la fois pour nourrir les futures générations et en même temps les ouvrir à quelque chose de plus culturel, de plus émotionnel.
Et pour tous ces projets-là, c'est cette ouverture d'esprit-là, il y a une appétence ou au départ, il y a une résistance éventuellement, ou est-ce que c'est très varié?
C'est toujours une résistance. Ouais. Ils ne veulent pas. Mais parce que ça leur paraît loin, et certains même, et ce que je trouve très dur, c'est qu'ils se sentent pas légitimes à approcher le fait culturel, à aller dans un musée, à regarder une pièce de théâtre, à pratiquer le théâtre. Enfin, beaucoup se sentent peu légitimes parce que chez eux, ils n'ont pas forcément cela, parce qu'ils se sentent éloignés de ces questions-là. Ils ont l'impression que c'est pas pour eux, c'est pour les gens de la ville. Hein. Il y a vraiment, on le sent, même si nous, on est en lycée périurbain, on sent quand même ce clivage ville-campagne de temps en temps ressurgir, notamment au travers de la culture et l'accès à la culture. Et il faut continuer, on lâche pas. Et vu que c'est intégré dans le programme de cours, ils ont de toute façon l'obligation d'assister aux cours. Et par ce biais-là, on arrive à leur faire découvrir autre chose, à leur faire pratiquer autre chose. Et en général, le résultat est toujours positif.
Ce modèle du lycée agricole de La Germinière, un enseignement centré autour d'une exploitation agricole, se retrouve dans beaucoup d'autres lycées de ce type. Dans certains départements, il n'existe que des établissements publics, mais on estime que plus de la moitié des élèves de l'enseignement agricole vont dans des structures privées. C'est vrai aussi dans les cursus plus avancés, les cursus d'ingénieurs par exemple. À Beauvais, dans l'Oise, le campus Unilassalle accueille des centaines de futurs ingénieurs agronomes. C'est une école privée dont la scolarité se monte à 5 ou 6 000 euros par an, un campus immense et moderne qui abrite des logements étudiants et où les enseignants y sont souvent aussi des chercheurs.
Bah parce que si je mets moins 3, n'oublie pas que G7 c'est le cumul, c'est-à-dire c'est ce que j'ai déjà cumulé les jours avant. Donc si j'avais déjà pris moins 3 de ce côté-là, et qu'après je lui remets moins 3, c'est comme si en fait progressivement j'en mets toujours 3 degrés à ce que j'ai déjà cumulé d'utile. Il y a un moment, tu as une erreur de 3.
À Unilassalle Beauvais, rien de ce qui se passe de nouveau dans le monde de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé ou de la géologie n'est laissé de côté, avec toujours ce lien très étroit avec les entreprises du territoire qui embaucheront plus tard les jeunes formés. Des jeunes déjà habitués à penser l'agriculture dans sa globalité.
Moi je m'appelle Héloïse Gave, je viens du nord de la France et je suis fille d'exploitant agricole. Et je suis en quatrième année d'école d'ingénieur en agriculture, spécialité agronomie et territoire.
Guillaume Marre, moi je viens du sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, à Gaillac plus précisément. Je suis fils de viticulteur, en parcours entrepreneuriat à Unilassalle en quatrième année. Aujourd'hui, voilà, on a une agriculture qui est de plus en plus globalisée, avec des concurrents qui sont plus qu'en France, qui sont aussi à l'étranger, à l'international. Et donc, il y a cette nécessité d'avoir cette ouverture sur le monde. On l'a, nous, ici, en formation d'ingénieur, en faisant des stages, notamment à la fin de notre deuxième année, à l'étranger. On passe 4 mois dans une exploitation agricole, pour la majorité, donc dans la filière agricole. Ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, en dehors de la France. Et donc ça nous, forcément, c'est une plus-value qu'on valorise quand on revient ici en se disant « mais pourquoi moi je fais comme ça en fait ?» C'est un raisonnement qu'on n'a pas forcément c'est toujours simple de faire comme on a toujours fait. Mmh. On entend toujours dans les médias, par le grand public aussi de manière plus générale, de penser de la fourche à la fourchette, donc du producteur vers le consommateur. Et ici on a tendance à nous apprendre à penser du consommateur vers le producteur, ce qui en fait est un peu plus logique si on réfléchit dans des situations hors agricoles. On pense d'abord à ce dont a besoin le client et on produit pour ce que veut le consommateur final. Et donc c'est un modèle aujourd'hui qui commence à rentrer dans l'or en agriculture. Et donc voilà, aujourd'hui le producteur doit de plus en plus communiquer auprès du consommateur sur les pratiques qu'il utilise. Pourquoi, par exemple, le glyphosate, pourquoi il met du glyphosate dans ses champs? C'est pas pour empoisonner le consommateur, c'est parce qu'il y a une raison. Tout ça, c'est de la communication. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment ici, à communiquer sur le produit, le marketer, pour que le consommateur s'identifie dans ce produit et une réelle confiance en l'agriculteur qui l'a produit. Donc voilà, aujourd'hui, la grande mode, c'est l'agriculture biologique. On en parle souvent. Le consommateur, c'est la production à laquelle il a le plus confiance. Moi, je suis fils de viticulteur biologique, donc je connais bien le mode de production. Mais après, il est évident que tel qu'il est aujourd'hui, le mode de production n'est pas adapté pour être développé de manière à grande échelle et nourrir tous les êtres humains. On parle de 2050 avec 9 milliards d'habitants. On a tendance aussi à beaucoup parler d'agriculture intensive, mais voilà, qu'est-ce qui est intensif dans ce mode de production ? C'est non, c'est pas une agriculture intensive, c'est une agriculture qui permet de nourrir les hommes et qui répond à des besoins. Donc voilà, il y a plein de modes de production qui sont possibles aujourd'hui dans la filière agricole, de l'agriculture raisonnée, des labels aussi en faveur de l'environnement, qu'on découvre aussi. En fait, et je pense que ce qu'on apprend, c'est à comprendre quels sont les réels enjeux des différents modes de production et les finalités de chacun de ces modes.
Est-ce que vous diriez que pendant toutes ces années d'enseignement, vous avez affûté votre, esprit critique par rapport au monde agricole ?
Je pense que oui, on nous apprend vraiment à être critique et à envisager toutes les possibilités et à pas être dogmatique en fait et à se dire que toutes les possibilités sont bonnes, que c'est juste une question d'adaptation et de comprendre, pourquoi on met en place des tels systèmes et oui d'être, critique, je pense que c'est le maître mot, parce que si on n'est pas critique, on comprend pas ce qu'on fait au final.
Aujourd'hui, peut-être qu'on maîtrise l'agriculture, le monde agricole tel qu'il est aujourd'hui. Mais il évolue à vitesse grand V. On a plein de nouveaux enjeux qui apparaissent. On parlait d'états généraux de l'alimentation, avec des problématiques qui sont ressorties, des solutions qui arrivent. Donc il y a des choses qui vont changer, des réformes de la PAC qui vont aussi endurcir les aides pour les agriculteurs. Donc la nécessité de l'agriculteur de se rémunérer parce qu'il produit, donc ce qu'il y a de plus normal. Et donc il y aura toujours la nécessité d'aller chercher ces nouvelles compétences, des nouvelles pratiques pour répondre aux problématiques qui vont évoluer au fil du temps et au fil des années.
Je pense que nos parents ont connu un monde que nous, on ne connaîtra jamais en agriculture et j'ai la sensation de... Enfin, on ne sait pas où on va, mais on y va, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça.
Sous la grande verrière de l'agora du campus où se rassemblent les élèves au son du piano et de la fontaine artificielle, nous discutons avec Michel Dubois, expert référent en sciences de l'agriculture. Il tente d'enseigner, lui, la philosophie de l'agriculture de demain.
L'agriculteur qu'on voudrait avoir demain, c'est un peu Superman. Eh oui, il doit être chef de travaux, il doit être inventeur... innovateur, entrepreneur, bon gestionnaire, une vision marketing. En plus, il doit connaître toute la biologie, la relation des plantes, des animaux au sol. S'il fait de l'élevage, il va falloir quand même qu'il connaisse beaucoup sur comment ça fonctionne, les robots associés, les outils, tout ça. Puis quand même, il faut qu'il connaisse le GPS, toutes les technologies modernes, qu'il aille tchatcher sur les sites. On rentre dans un métier où l'agriculteur devient tout à coup un métier hyper complexe. Avec une différence, c'est que quand vous faites un métier aussi compliqué et aussi ou cérébral dans certains domaines qui sont plus simples, comme les finances ou des trucs comme ça, vous êtes hyper bien payé. Pour le moment, ils ne sont pas hyper bien payés. Donc vous comprenez, les gens aujourd'hui qui ont envie de s'éclater, si c'est dans l'agriculture, il faut qu'ils soient passionnés par l'agriculture. Parce que pour le moment, ça ne rapporte pas énormément. La mutation, que je dirais agroécologique dans son sens large, c'est-à-dire la révolution de l'agronomie qui se repense, qui se reconstruit, ça a déjà 25 ans quand même. Oui, largement. Et donc c'est ça qui, à mon avis, a été le premier moteur. Alors, associé au fait que la société change, le pourcentage d'agriculteurs dans la population baisse, les citadins sont décalés de l'agriculture, ne comprennent plus très bien ce que c'est que l'agriculture, ils en ont une vision complètement idéalisée, c'est le paradis perdu des gens qui vivent dans le béton permanent. On peut le reprocher à personne, c'est un fait de civilisation. C'est un fait de civilisation, on rentre dans un monde nouveau. Alors, si vous voulez avoir ma vision, mon jugement là-dessus, c'est que faut pas sous-estimer cette rupture. La comparaison, pour moi, c'est le néolithique. Donc, il y a 10 000 ans, on a inventé l'agriculture et les civilisations avec l'émergence des villes et tout. Et aujourd'hui, on invente un nouveau monde. Je sais pas comment on va l'appeler, si c'est l'anthropocène ou pas. Mais ce nouveau monde, l'agriculture n'est plus un soubassement. Le cœur de la civilisation, c'est la ville. Les agriculteurs seront des représentants des citadins. D'ailleurs, aujourd'hui, les deux tiers des agriculteurs innovants sont des gens culturellement quasi citadins. C'est des mix. Ils sont des urbains. Oui, parce que nos élèves, il y en a beaucoup qui vont reprendre des exploitations agricoles, bon, pas tous, mais ils vont amener une pensée de citadin. Une pensée de citadin, Je n'ai pas qu'à produire et à ne pas m'occuper de quoi ça sert. Je dois avoir une vision de production, de productivité, de qualité, de savoir pour qui je veux produire et comment je produis. Et est-ce que je réponds aux critères de la bonne alliance avec la nature que je devrais avoir, etc. Non, c'est une vraie révolution culturelle.
Et ça, les étudiants qui arrivent, ils en ont une espèce de préscience.
Qui arrivent en première année?
Oui, enfin, non.
Oh non, non, je dirais pas ça. Ils ont conscience qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ils ont conscience qu'il se passe quelque chose, mais eux, ils sont plus pris par tout ce qui est médiatique, c'est-à-dire le changement climatique, les problèmes énergétiques, la pollution, etc. Ça, je pense que oui. Mais prendre conscience que l'agriculture en tant que telle est une partie très forte de la mutation d'aujourd'hui, parce que la mutation d'aujourd'hui, c'est justement, on coupe les amarres avec le néolithique. Sauf que l'enseignement agricole, je pense que globalement, je ne sais pas s'il y a tellement de monde que ça qui pense ce genre de, qui a ce point de vue-là.
Cette révolution que vit l'agriculture, comment l'enseigner concrètement, avec quels outils pédagogiques, en suivant quel programme? Tout ça, c'est le métier de Christian Pelletier. Il est formateur dans l'enseignement agricole, mais aussi doctorant en sciences de l'éducation, car au-delà de savoir ce qu'on enseigne, il faut aussi imaginer comment l'enseigner. Christian Pelletier.
C'est vrai que les jeunes, beaucoup de jeunes dans l'enseignement agricole, surtout ceux qui se dirigent vers les professions de l'agriculture, sont des jeunes qui viennent d'un milieu familial agricole. Et si dans le milieu agricole il y a des innovateurs, il y a des agriculteurs qui étaient totalement inscrits dans l'orientation donnée dans les années 60 et 70. Donc ça a été un peu une violence pour ces jeunes, puisque l'orientation agriculture-développement durable questionnait beaucoup les pratiques familiales. Donc dès ce moment-là, les instituts qui sont chargés de former les enseignants ont commencé un travail sur la manière dont on peut envisager, sans trop agresser des jeunes, de construire de nouvelles connaissances, mais surtout de nouvelles compétences, on va dire, et de nouveaux raisonnements. Je crois que l'erreur, c'est la volonté d'inculquer une nouvelle doxa, d'inculquer de nouvelles pratiques, parce qu'on sait très bien que dans le monde agricole, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe beaucoup par la réflexion, ça se passe par l'expérience ou l'action qui fait réfléchir et qui vient titiller le raisonnement des uns et des autres. Par exemple, il y a des choses toutes bêtes sur le semis, sur la traite, qui sont des gestes qui peuvent paraître évidents, banals, pour l'enseignement agricole. Or, derrière cette pratique simple, il y a toute une expertise qui s'est construite, surtout quand il y a un aléa à gérer. Parce que la traite, quand tout va bien, c'est pas compliqué. Sauf que quand une vache a une mammite, il faut savoir la déceler et aménager, réorienter son geste professionnel. Ce sont des exemples très simples, on peut en imaginer de beaucoup plus complexes. Néanmoins, la démarche d'accompagnement à la fois du jeune et du futur professionnel, et la démarche avec les enseignants qui ont ça à enseigner, est la même. C'est-à-dire qu'on va partir d'une situation, et dans cette situation que l'on va choisir, ce n'est pas innocent, on va la choisir avec un fort potentiel problématique. En gros, une question socialement vive, voire une question qui est un peu filoutée par certains acteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment on va mettre le jeune dans cette situation-là, comment on va le mettre dans ce piège pédagogique, pour le faire réfléchir, non pas à la solution qu'il faudrait mettre en œuvre, mais des solutions possibles, de grands types de solutions, qu'il faudra ensuite adapter au contexte propre dans lequel le jeune va se retrouver professionnellement, et on peut même élargir de manière plus générale en tant que citoyen. Donc ça, c'est une première grande nouveauté, partir des situations professionnelles significatives, venir questionner ces situations et mettre en perspective une question qui est celle de la durabilité des pratiques. Pour que le jeune ne se sente pas prisonnier de la solution que le ministère, des fonctionnaires, lui, l'obligerait à mettre en œuvre.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture à l'école des mutations agricoles. C'était un reportage d'Anne-Laure Chouin réalisé par Yacine Bouzard et nous sommes toujours avec nos deux invités, Philippe Vincent qui est directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture et puis en duplex d'Auvergne, Jean-Marie Leboiteux qui est enseignant agricole, représentant du SNETAP FSU, donc un syndicat de l'enseignement agricole public et je crois, monsieur, que vous êtes aussi professeur donc de biologie, écologie dans un lycée en Haute-Loire. Alors une première question question à vous, Philippe Vincent. On vient de parcourir donc avec Anne-Laure un lycée agricole public et puis ensuite une grande école privée. Et tout à l'heure, on disait aussi que à peu près les deux tiers des élèves et des étudiants sont dans le privé quand ils sont dans l'enseignement agricole. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des spécificités, une différence entre le public et le privé? Vous, en tant que ministère, vous subventionnez un peu les deux?
Alors, pour le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, on a 800 établissements dans l'enseignement technique. Donc, sur les 800 établissements, il y en a 200 publics, 200 enseignements privés avec des lycées temps plein, et on a à peu près 350 maisons familiales rurales où il y a ce qu'on appelle un rythme approprié, c'est-à-dire il y a une partie du temps dans le monde professionnel et une partie du temps en milieu scolaire. Ça, je crois que c'est, donc, pour donner les chiffres, pour l'enseignement supérieur, il y a 12 écoles supérieures publiques, écoles agronomiques, écoles vétérinaires, écoles du paysage, et 6 écoles privées. Alors, pour le ministère, l'enseignement agricole, c'est la totalité, et il y a des différences, je dirais, en ce qui concerne le lien au territoire, d'une certaine manière, et puis l'histoire, parce que chaque établissement a une autonomie, a une histoire, et c'est ça qui fait la diversité. L'unité, en revanche, c'est toujours des programmes qui sont fixés par le ministère et une volonté de travail en commun dans le respect des spécificités des différentes composantes.
Jean-Marie Le Boiteux, alors que veut dire un ancrage dans les territoires différents quand il s'agit du privé et quand il s'agit du public? Vous êtes professeur dans un lycée agricole public.
Tout à fait, et plus particulièrement dans un centre de formation pour les adultes, mais peu importe, c'est au sein d'un EPL dans lequel il y a un lycée. Je pense que c'est faux de dire qu'il y a un ancrage dans le territoire différent. Après, c'est vrai qu'on met souvent en avant la question des maisons familiales, mais il est évident que la moitié de la formation se passant dans l'entreprise, dans l'exploitation agricole, il est évident que de fait il y a un lien avec l'exploitation et donc avec le territoire qui est renforcé par ce biais-là. Mais les lycées publics travaillent de manière très étroite avec leur environnement professionnel.
Est-ce que c'est une spécificité de l'enseignement public, pour être bien clair, de travailler autour d'une exploitation ou c'est aussi le cas à peu près dans tous les enseignements, les établissements agricoles? Jean-Marie Le Boiteux.
Oui, ben c'est quand même pas une spécificité, parce qu'il y a des établissements privés qui ont des exploitations, mais déjà, les maisons familiales, de par leur organisation pédagogique, n'ont pas de support pédagogique d'exploitation. Le privé temps plein l'a en partie, mais la particularité de l'enseignement agricole public, c'est que tous les lycées, c'est d'ailleurs dans le statut, c'est dans le code rural, que tous les établissements publics locaux doivent avoir soit une exploitation agricole, soit un atelier pédagogique.
Non,
justement, comme le disait un certain nombre d'élèves, moi j'ai quand même apprécié les élèves qui disaient, c'est bien de montrer ça, des pratiques différentes de ce qu'on voit chez nous. C'est difficile de mettre ça dans la tête des anciens, mais quand on voit que ça marche dans notre établissement, etc. Et moi, pour moi, c'est ça que les exploitations des lycées publics doivent arriver à montrer.
Oui, les changer peut-être un peu de monde. Quand même, Philippe Vincent, que vouliez-vous dire quand vous avez dit ancrage territorial différent dans le privé?
Moi, je dirais que dans le public, il y a, comme l'a dit Jean-Marie Le Boiteux, toujours une exploitation agricole, il y a toujours un centre de formation des apprentis, il y a toujours un centre de formation professionnelle, ou la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'il y a une relation étroite avec le territoire, donc ça c'est une valeur très forte. Je dirais que pour les établissements du privé, il y a besoin, pour l'équilibre financier, d'avoir une relation un peu spécifique avec les opérateurs agricoles. Mais en revanche, ils ont souvent...
Avec des opérateurs privés.
Avec des opérateurs privés. Oui. Et c'est ça qui fait une différence. Et puis surtout, il y a une différence d'histoire. Hein. Comme l'a dit Jean-Marie Le Boiteux, l'enseignement agricole public est très... accorde une place très importante à l'enseignement agricole. Souvent, dans les lycées privé, il y a une attention très forte sur tout ce qui est les services à la personne. Et ça, c'est pour ça que je disais cet élément historique aussi qui est important. Donc, ce qui veut dire que chaque établissement a une autonomie assez forte. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Donc, chaque établissement est différent des autres.
Alors, une autonomie des établissements, on l'a bien noté, un lien avec les entreprises du territoire, etc. Mais par exemple, pour les programmes un peu nationaux, type Produire Autrement, qu'a mis en place Stéphane Le Foll en faveur de l'agroécologie, Comment ça se décline dans le public et dans le privé et dans les différents territoires selon leur dans les différents établissements selon leur spécificité? Parce que c'est un même programme pour tout le monde, est-ce qu'il est plus ou moins décliné par chaque établissement?
Il faut juste dire que c'est un programme mis en place donc par Stéphane Le Foll sous le mandat de François Hollande et qui a apparemment révolutionné quand même pas mal ou en tout cas modifié un peu l'enseignement agricole, Philippe Vincent.
Oui, il y a une volonté de réconcilier agriculture et écologie, d'avoir une multi-performance, c'est-à-dire qu'une exploitation soit à la fois performante sur un plan économique, sur un plan écologique et sur un plan social. Donc on a dans ce contexte-là, sous l'impulsion du ministre, révisé l'ensemble des programmes pour justement bien intégrer cette dimension d'agroécologie. Ça a été un grand travail et on a également fait le choix de remettre l'exploitation agricole au cœur de l'établissement. Et ça, ça a été une formidable remobilisation de l'ensemble du dispositif. Moi, ce que je dis également, c'est que dans nos programmes, il y a toujours une marge d'autonomie pour les professeurs et pour les établissements. Et ce qui permet de s'adapter aux besoins du territoire, comme le dit très bien le directeur du lycée de la Jarminière. Et sinon, les programmes, bien évidemment, sont les mêmes et les examens sont les mêmes dans le public et le privé. Et ça, on y veille jalousement.
Donc le privé a dû devenir durable aussi.
Absolument. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur la salle, d'ailleurs, où cette attention est bien marquée.
Bien sûr, Anne Lorchard.
Oui, non, le point de vue de M. Le Boiteux là-dessus, sur ce programme, notamment Produire autrement, dans le public
oui,
et dans le privé.
Non, mais... Sur le fond, il est évident que Monsieur Vincent a raison. Les programmes sont les mêmes pour tout le monde. La seule chose que je dis moi et qu'on a dit toujours au SNETAP et Monsieur Vincent le sait très bien, c'est que nous on était favorable à la dynamique qu'a impulsé Stéphane Le Foll sur ces questions-là, sauf qu'on trouve qu'il n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Et maintenant, pour revenir concrètement à la responsabilité de l'enseignement public dans tout ça, nous on était demandeurs. On avait fait une proposition d'amendement au moment de la loi d'avenir pour l'agriculture de Stéphane Le Foll en disant vous avez une responsabilité sur les lycées publics, sur les exploitations agricoles des lycées publics, allez jusqu'au bout de la démarche, obligez. Nous on était d'accord pour discuter de l'intervalle, est-ce qu'il faudra 5 ans, 10 ans, peu importe, mais obligez les exploitations agricoles des lycées publics à offrir d'autres modalités de production. Or, aujourd'hui, si on regarde les exploitations qui sont en agriculture biologique, c'est 11% de nos exploitations.
Dans les lycées, oui, donc c'est vrai que c'est très peu. C'est plus qu'à l'échelle nationale, alors, mais c'est très peu.
Voilà, c'est plus que l'agriculture biologique en France, c'est vrai, puisque c'est de l'ordre de 5,5-6%, donc c'est mieux. Mais nous, justement, le rôle de nos établissements, c'est de montrer la voie. Après, encore une fois, moi je reprends les termes d'un des élèves, ou non, de Christian Pelletier à la fin, c'est pas être donneur de leçons, mais de pouvoir montrer aux jeunes qui passent chez nous que d'autres modes de production sont possibles. Et je termine en disant, ce qu'on a porté au moment de la loi d'avenir, on est quand même très déçu que le ministre actuel, qui a en préparation une loi sur l'alimentation dans laquelle ces questions-là sont à nouveau posées, il n'y a pas le moindre début d'un chapitre sur le volet enseignement dans cette loi, et c'est fortement regrettable. Alors le débat va s'ouvrir à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous on portera des propositions en ce sens-là, et j'espère que monsieur le directeur général, on le trouvera avec nous sur cette question-là.
Donc c'était votre message à Stéphane Travers, oui, monsieur Vincent.
Juste pour pas donner quelques éléments sur la place du bio dans les exploitations agricoles, aujourd'hui on est à 20% de la superficie des exploitations agricoles, donc près de 20 000 hectares des agricoles. Hein. Près de 20% est en bio. Au niveau français, on est à 6%, donc il y a un vrai effort.
Mmh. Et vous voulez dire des agriculteurs dans le privé, les exploitations, c'est 6% seulement.
Voilà.
On est
à 20%. Oui. Et sur les 192 exploitations, il y en a 116 qui ont au moins un atelier conduit en agriculture biologique.
C'est très nouveau ça, monsieur, c'est vraiment très nouveau.
Oh, c'est quelque chose qui est monté en puissance, je dirais, qui a été fait sur le long terme et qui est monté en puissance régulièrement. Il y a eu, bien évidemment, un accent au cours des dernières années. Et ça, je crois que c'est quand même important, la place du bio. En même temps, sur la Jarminière où vous étiez, donc au côté du Mans, il n'y a pas d'exploitation biologique. Et je trouve que là, c'est intéressant l'explication que m'a donnée le directeur. C'est pour justement un lien avec l'agriculteur de la Sarthe. Et donc, eux sont partis sur une agriculture de conservation, qui est une agriculture extrêmement exigeante, avec du zéro labour. Et donc, c'est une autre voie pour justement ne pas passer au bio, mais avoir quelque chose d'écologiquement performant et qui est peut-être très, très important pour ce dispositif. Puis un autre point que je voulais également ajouter, c'est que l'orientation qui a été donnée sur la mandature précédente est complètement confirmée par le ministre Travers. Et ça, je crois que c'est un élément qui a été très important en termes de continuité. Et je dirais que la position du président de la République réaffirmée sur des dossiers comme le glyphosate, où force est de constater qu'il prend une position assez distincte par rapport à certaines prises de parole professionnel montre qu'il y a une volonté claire en ce sens de continuer le mouvement.
En tout cas, c'est une position qui a beaucoup fait réagir les jeunes que vous avez rencontrés.
Oui, sur le glyphosate, ils ont tous leur mot à dire. En général, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils voient mal comment on peut faire sans pour l'instant. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Donc, on a bien compris que les innovations, elles étaient dans les établissements d'enseignement agricole avant peut-être d'être sur le terrain. Il y a aussi une spécificité, on l'a dit, c'est l'apprentissage, la place des apprentis dans ces établissements, les centres de formation par l'apprentissage, les centres de formation professionnelle pour les adultes. En quoi c'est absolument nécessaire pour cette filière? Et est-ce que l'éducation nationale n'aurait pas aussi intérêt à regarder un peu comment ça se passe?
On peut peut-être demander son point de vue à Jean-Marie Leboitu là-dessus.
Non, mais sur cette question-là, nous, on dit depuis le début que l'apprentissage est une voie de formation comme une autre et qui doit être reconnue à égale valeur, c'est pas le problème. Là, ce qui nous pose problème, c'est quand, pour des raisons purement financières et de désengagement de l'État, parce que aujourd'hui, l'apprentissage est financé essentiellement en partie par la profession et pour beaucoup par les régions. Donc si c'est une pure question économique et de calculette, ça nous pose problème.
Voilà. Bah, il y a des raisons d'insertion professionnelle qui sont très. Il y a un taux d'insertion professionnelle grâce à l'apprentissage dans les lycées agricoles qui est quand même assez intéressant.
Honnêtement, regardez le taux d'insertion professionnelle des filières professionnelles de l'enseignement agricole en formation initiale. Elles sont largement comparables à celles de l'apprentissage. Et regardons l'insertion professionnelle, pas forcément à la sortie de la formation, mais sur le long terme, je suis pas persuadé. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose enfin, pour nous, au niveau du CNETAP, c'est pas quelque chose de discriminant. Je suis pas en train de vous dire que l'un est meilleur que l'autre, mais on peut pas sortir cet exemple-là comme étant. Par contre, s'il y a un domaine où l'enseignement agricole sur la question de l'apprentissage peut être un modèle, c'est qu'il est sous contrôle essentiellement du public et pas tellement des branches professionnelles comme c'est le cas dans les autres secteurs d'activité. Oui. Si on pouvait être un modèle, effectivement, ça serait celui-là.
Alors Philippe Vincent voulait justement poursuivre sur ce terrain. Donc les apprentis, effectivement, il y a une spécificité du monde agricole et de l'enseignement agricole en ce qui concerne l'apprentissage. Ils ont été multipliés par 2 ou 3, je suis désolée, j'ai plus vraiment les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'ils sont 33 000 aujourd'hui, ils étaient beaucoup moins nombreux.
Il y a une certaine stabilité. Là où il y a une forte croissance, c'est sur les apprentis dans l'enseignement supérieur agricole. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour former notamment des ingénieurs agronomes par la voie de l'apprentissage, ce qui permet de donner une diversité sociale beaucoup plus grande. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ces établissements, c'est la coexistence de ces voies différentes de formation, avoir des élèves en voie scolaire, des apprentis et des adultes en formation, parce que ça permet un lien très fort avec le monde professionnel et ça permet des échanges très fructueux pour ces publics qui sont différents, avec des âges différents, des approches différentes. Et je trouve que ça permet également, en raison aussi de la présence très forte des internats, on a 60% d'élèves qui sont internes, ça donne un sens du collectif et un sens du projet. Et je trouve que dans le monde agricole, c'est très important. S'il y a ce sens du collectif, c'est aussi en raison de cette force qui est donnée dès le monde de l'enseignement, qu'on ne fait pas les choses tout seul, qu'on les fait à plusieurs et qu'on travaille mieux en additionnant les qualités d'un groupe. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est vraiment une force. Et ça explique aussi des bons taux au niveau des diplômes, mais surtout en termes d'insertion professionnelle et sociale. Sachant que c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous.
Oui, monsieur Le Boiteux.
C'est un point où là, on est entièrement d'accord avec ce que vient de dire monsieur le directeur général. Je rajoute même qu'une des autres forces, c'est la coexistence de filières générales, technologiques et professionnelles dans nos lycées. Mais sur le reste, alors, on est à 100% d'accord avec vous sur ce point-là.
Alors, moi, j'avais une question sur la mixité, puisqu'on parlait tout à l'heure aussi des filles qu'on entend un peu dans le reportage d'Anne-Laure. Elles sont quand même relativement nombreuses dans l'enseignement agricole. Elles se tournent peut-être pas forcément vers la filière exploitation, production, agriculture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Vincent. Mais je m'adresse là encore à vous, monsieur Le Boiteux. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles elles sont exactement comme les garçons dans leur façon d'appréhender le métier d'agricultrice? Enfin, vous les voyez dans ce cadre-là justement des femmes capables d'avoir des exploitations au même titre que les hommes, ce qui serait quand même une forme de mutation, puisque sur le terrain, elles sont moins de 30% en vérité à être chef d'exploitation femmes.
Tout à fait, mais je pense que le monde agricole est peut-être sur cette question-là un de ceux qui part du plus loin, mais qui peut-être aujourd'hui avance le plus vite. Donc c'est quand même quelque chose qui progresse. Alors après, la question des équilibres filles-garçons dans l'enseignement agricole est à relativiser dans la mesure où, comme vous le disiez vous-même, c'est très variable d'une filière à l'autre, et que la filière, j'allais dire agricolo-agricole dans l'enseignement agricole, est quand même une très très faible part. Donc voilà. Mais dans le domaine purement agricole, les filles dans nos filières sont effectivement minoritaires, mais quand même c'est une question qui progresse. Et encore une fois, de façon diverse selon le type d'agriculture.
Alors rapidement, autre évolution qu'on a pu noter dans l'enseignement agricole, aujourd'hui on forme plus au métier de la ruralité, et notamment vous parliez des services à la personne tout à l'heure, que vraiment l'agriculture.
Philippe Vincent.
Juste pour les femmes dans les formations agricoles, on a un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, donc ça progresse quand même vite, et on a une attention très forte là-dessus. Et on a une présidente de la FNSEA qui est une femme, je le rappelle.
Mais ces femmes-là, elles vont plus vers les métiers des services à la personne dans les services agricoles.
Absolument. Le service enseignement agricole, et ça, votre reportage le dit très bien, il y a trois grandes formations qui sont dispensées. Un tiers, en gros, c'est les formations agricoles, au sens large, et au métier de l'agroalimentaire. Un tiers sur tout ce qui est les services à la personne. Et ça, je crois que c'est très important aussi pour le monde rural. Et ensuite, il y a un tiers de formation générale, hein, donc des bacs S notamment, et également des métiers de l'environnement.
De la valorisation des patrimoines.
Donc c'est beaucoup plus varié que le simple métier d'agriculteur.
Auquel on peut penser spontanément. Un tout dernier mot de conclusion à vous, Monsieur Le Boiteux. Simplement, on entendait un peu tout à l'heure dans le reportage d'Anne-Laure que les jeunes rêvent évidemment de s'installer, mais en même temps ils sont confrontés à un monde qui change. Vous arrivez à leur faire percevoir justement tous ces changements, ces enjeux qui sont très importants, et notamment la crise quand même du monde agricole qui se profile derrière le métier.
Oui, mais c'est notre rôle d'enseignant, non seulement qu'ils perçoivent cela, qu'ils soient en capacité de l'analyser, mais en même temps, on est là pour former des jeunes et leur donner quand même quelque part un espoir dans l'avenir et leur montrer quand même qu'il y a des solutions et que tout ça n'est pas totalement inéluctable.
Merci beaucoup Jean-Marie Le Boiteux, Philippe Vincent d'avoir participé à cette
Merci
émission.
Beaucoup.
Le magazine de la rédaction a été signé Anne-Laure Choin aujourd'hui, à la technique ce soir Pierre Faucillon, et puis merci à nos collègues de France Bleu Pays d'Auvergne qui ont assuré la liaison donc avec Clermont-Ferrand, et à Yacine Bouzard qui a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr, où il y aura beaucoup de bonus comme on dit dans notre jargon, avec d'autres lycées dans lesquels vous êtes allés, Anne-Laure.